Amis de Radio Silence, bonjour. Nous sommes le dimanche 3 avril. Vous écoutez Flash sur le Monde par Élise Bock sur probablement le dernier billet avant le premier tour des élections présidentielles françaises et qui fait déjà comme une sorte de... C'est pas un bilan. Mais une ouverture pour le futur sur l'un des thèmes qui a été, à mes yeux, le plus intéressant dans cette campagne, c'était ce thème de changement civilisationnel que certains, enfin, que M. Zemmour appelait le grand remplacement. Et c'est vrai que chacun voit, chacun entend ce qu'il veut entendre. Ça, c'est le propre. De l'usage des mots. Et moi, de ce que j'ai entendu, bon, il y a eu beaucoup de choses, hein, c'est-à-dire qu'au moment de la campagne présidentielle, parce qu'on ne débat plus depuis un moment dans cette société, puisque le débat, ça fâche, le débat, ça clive, le débat, ça crée des rancœurs, alors qu'avant, le débat, c'est ce qui permettait, au-delà des différences, de pouvoir trouver pas peut-être des compromis, mais une façon de vivre ensemble, un modus vivendi. Aujourd'hui, c'est plus ça. Si vous allez à un débat, vous risquez de vous faire des ennemis à mort parce que les gens sont devenus susceptibles, enfin ultra-épidermiques, tout simplement parce qu'on est plus dans un rapport de force permanent, dans un rapport de filouterie qu'autre chose. Et surtout, on est dans une forme de représentation de soi permanente, qui fait qu'on ne supporte plus de perdre la face. On ne supporte plus de perdre la face. Ou alors, on se permet de provoquer inutilement ou abusivement ceux qui vont être abusivement, oui, parce que d'après les nouveaux codes, il ne faut pas répondre à la violence par la violence, c'est-à-dire que ce qu'on a vu, par exemple, entre Chris Rock et Will Smith au cours des Oscars, est vraiment représentatif de ce que nous sommes devenus, c'est-à-dire d'un côté quelqu'un qui va venir lâchement asséner des choses contre vous, notamment des attaques vraiment personnelles et frontales, tout en disant oui, vous voyez l'humour noir, je rigolais, je plaisantais, oui, on ne plaisante pas avec tout ce qui est personnel. Et de l'autre, M. Smith, qui est sorti de ses gongs, c'est normal, parce que justement, quand vous attaquez quelqu'un de façon personnelle et que les attaques sont répétitives et qu'elles sont sournoises, parce que c'est cela, on parle déjà de culture, là, et de civilisation. Ces comportements n'arrivent pas par hasard, ces provocations comme ça, mesquines, elles n'arrivent pas par hasard, parce qu'on a dévié de l'axe. Et on est passé du il faut rien interdire, au tout est permis. Alors M. Smith a giflé, et comme c'est toujours pareil, le bourreau il vous attaque, vous répondez, ben, c'est vous qui avez tort, parce qu'on essaye de déshumaniser la société pour la mécaniser ou pour la robotiser, en faisant fi de tout ce qui est sentiment, émotion, affection personnelle. Je veux dire, c'est l'homme, l'individu, a été évacué du système et même du processus au détriment d'une forme de pensée mécanique, pensée technique, technocratique, technologique, et puis c'est ça qui vous meut comme si vous étiez un meuble. Voilà, l'homme est devenu un meuble et c'est toute une philosophie qui n'a pas été vraiment abordée par tout ce qu'impliquait le mot grand remplacement. Il est vrai que lorsqu'on a évoqué pour cela dès le départ tout ce qui s'était passé avec l'époque tourmentée de ce qu'on a déporté, de ce qu'on n'a pas déporté, le gouvernement de Vichy, bon, ça tout a déraillé et a, comment j'allais dire, à dessein parce que ceux qui commentent sont comme Chris Rock, ils font un commentaire complètement déplacé et volontairement, et puis vous devant, vous pouvez pas trop réagir parce que ceux qui commentent, ils ont la masse avec eux, ils ont le pouvoir avec eux, ils ont la force avec eux, et forcément ils ont, sans avoir raison, mais ils ont une parole dominante, parasite, abusive, qui fait qu'on peut pas trop s'opposer à elle sans avoir quelque part subir des représailles, ou alors ben on n'a pas la même force sonore pour pouvoir contrecarrer cela. Donc dans cette civilisation, ce grand remplacement, moi j'ai repensé, je me dis mais au fait, puisqu'on parle de l'identité française, parce que là on voit très bien qu'il y a deux choses qui se sont bien dégagées dans cette campagne. C'est d'un côté bon, le président sortant qui bénéficie probablement de la mansuétude des sondages, parce qu'on ne peut pas dire non à ces sondages, puisque apparemment les sondages ne peuvent, si vraiment les sondages ont probablement un effet, c'est qu'ils ont la cartographie de l'électorat de ce président sortant. Et de l'autre côté, on a l'émergence alors forte de l'extrême droite, disons de la droite. J'aime pas les mots nationalistes ni identitaires, souverainistes, ça va être mieux. D'un côté, il y a un article britannique qui dit, enfin britannique anglophone ou américain, qui dit que Madame Le Pen gagne sur Monsieur Zemmour parce qu'elle a essayé de mettre les formes sur les choses. Et sur les choses, oui, on va dire comme ça. Et puis, Monsieur Zemmour perd parce qu'il a un langage trop cru et que, enfin, il perd par rapport à Madame Le Pen parce que, bon. Sauf qu'on n'a pas, on a quand même assisté à beaucoup de ralliements, des gens qui sont partis de chez Madame Le Pen pour Monsieur Zemmour. Ça n'a pas été tellement noté. Mais disons qu'on a l'émergence de ces deux phénomènes. Et donc, on doit quand même se demander, bon, pour monsieur le président sortant, laisse tomber, on va pas trop commenter cela, surtout qu'on le dira à la fin, mais on peut même le dire tout de suite, qu'est-ce qu'il fait là? Il nous a aligné qui fait vraiment le problème civilisationnel aujourd'hui. Ce sont ces catégories professionnelles ou sociales qui sont devenues des tribus, lesquelles tribus sont elles-mêmes devenues des clientèles électorales, et lesquelles clientèles électorales sont devenues, je pense au vote musulman toujours, je pense aux grandes écoles, je pense je vais dire après, on va dire ces clientèles sont devenues des lobbies, je vais penser aux lobbies corses, il y a d'autres lobbies financiers. Ce mouvement fait que quand on promeut, on promeut, on promeut, chacun ses biens, mais du coup on est rentré dans une course où on demande des revendications professionnelles ou sociales, par catégorie, catégorielle, les retraités probablement, alors on va faire des cadeaux aux retraités, on va faire des cadeaux aux femmes seules, on va faire des cadeaux à ci, à ci, à ci. Mais ça dit au moment, en période électorale, parce que ça devait être fait depuis, ça devient du clientélisme, vous voyez, la tribu devient une clientèle. C'est un problème aussi des civilisations, tout cela, et qui n'a pas vraiment été posé, mais la question qui peut déjà être posée à ce niveau, mais c'est d'où vient qu'au sein de toutes ces tribus, vous voyez, il y en a autant, il y en a vraiment tellement de tribus, d'où vient qu'au sein de toutes ces tribus, c'est l'immigration, la tribu des immigrés, qui a émergé comme étant le point focal des grands déséquilibres français. C'est une question parce qu'on a la tribu des restaurateurs, on a la tribu des industriels, on a la tribu des milliardaires, on a la tribu des hommes politiques, bien sûr. D'où vient-il donc que c'est seulement la tribu immigrée qui fait problème et qui serait probablement à l'origine, qui pourrait créer le grand basculement vers une autre civilisation. C'était à la fois réducteur et en même temps probablement mal positionné, parce qu'il fallait en dire que peut-être qu'on prenait cela comme un cas d'école à partir duquel on réfléchirait sur le reste. Donc là, ça grippait un peu là, parce qu'après on réfléchissait plus sur le reste, mais ça, c'est juste des questions, hein. Mais en même temps, c'est intéressant de voir que c'est cela aussi qui a interpellé beaucoup de Français. Les Russes ne sont pas bêtes. Pourquoi, pour les Français, au sein de toutes qui appartiennent eux-mêmes à des clientèles, à des lobbies, à des tribus, pourquoi, après, ils sont plus focalisés sur la tribu immigrée que, par exemple, la tribu religieuse, par exemple, la tribu chrétienne, la tribu. Bon, quelqu'un a dit, je crois que c'est M. Zemmour, que oui, mais quand on disait musulman, l'islam, pardon, ça regroupe tout ça. Ça regroupe tout ça, c'est pas seulement la religion, c'est la citoyenneté dans son ensemble. C'est possible aussi, mais c'était aussi une façon un peu. Chacun fait ce qu'il veut, laissons tomber. Mais retenons quand même l'idée derrière de la générosité française. Retenons de ce qui faisait que la France était la France. Qu'est-ce qui fait que la France était la France? Il y a d'abord la générosité. La France a toujours été, aux yeux des autres, un pays de générosité, pas forcément avec les allocations familiales, mais aussi par son souci social, par ses idéaux, par son qu'elle a partagé, par son art de vivre, par tout le culte de la beauté, l'éloge de la beauté, par l'excellence, par sa noblesse, par sa royauté. Vous voyez? Donc le fait aussi qu'on dise générosité ne veut pas seulement dire qu'on parle d'allocation familiale, on parle de la France qui partage plus que cela. Elle partage plus que cela. Elle partage, par exemple, sa révolution, c'est formidable. Elle partage ses lumières, c'est formidable. Elle partage à la fois Bourvil et puis Arsène Lupin, c'est-à-dire la poésie, une certaine poésie funeste, bien sûr. Et elle partage aussi Gavroche. Vous voyez, il y avait tellement de choses dans la générosité française qui a été perdue. Et qui semblait se retrouver à un niveau transcendantal par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, qui est terre à terre. Et c'est peut-être là où la France est tombée de son piédestal, parce qu'aujourd'hui, entre-temps, on a eu un remplacement de civilisation qui a ramené la France un peu sur terre, alors qu'elle n'évoluait pas sur terre. Vous voyez, c'était un astre, la France. Et il y avait là une grosse réflexion. Un débat, des discussions qui pouvaient avoir lieu. Cette France qui était douce par ses paysages, par ses marches, par ses vélos, par son style de vie, en même temps en contraste, très simple, en champêtre, en contraste avec cette élévation intellectuelle ou plutôt spirituelle. Bon, il y avait quelque chose qui a échappé, mais c'est ça l'identité française aussi, de partager quelque chose qui dépasse nos petites considérations et qui dépasse même la notion de l'État et de la nation. Et alors, c'est vrai, quand on dit cela, on ne peut plus trouver le partage, parce que la société française, dont partie des tribus éclatées en tribus, comme on a dit tout à l'heure, et en clientèle, elle avait le projet généreux, unificateur. C'était le seul d'ailleurs qui pouvait unifier la République. Et de là, elle s'est rétrécie pour arriver à cette atomisation de la société en satellite. Et laquelle atomisation a finalement dégénéré en fracture. C'est monsieur le président Jacques Chirac qui est le premier, fait ce diagnostic de la fracture sociale. La fracture sociale, on la traite pas en même temps. On la traite, parce Parce que, comme on a dit tout à l'heure, sous l'angle des clientèles, mais on ne la traite pas aussi parce que derrière cela, on n'a pas un projet unificateur. Et pour qu'on ait un projet unificateur, il faut qu'on revienne dans une logique, je ne vais pas dire de l'excellence, mais de la transparence. Voilà, déjà, c'est déjà mieux, de la transparence et de l'éthique. On n'a pas ces choses-là. Bon, la France, elle était généreuse. Voilà, la France. Elle avait quelque chose de mystérieuse. La France, elle avait la beauté, l'éloge de la beauté. La France, elle avait toutes ces valeurs qui sont immatérielles pour son compte, qui n'existent plus parce que maintenant, on a rejoint, entre-temps, c'est vrai, elle a rejoint des grandes entités supra ou infra, parce que là, du coup, vraiment, elles sont infra-françaises qui ont quelque part dilué son identité. L'identité, c'est pas seulement, elle n'est pas seulement diluée par le bas, j'allais dire par les immigrés, mais elle est diluée par le haut. Et tous ces îlots qui sont venus s'intercaler ne favorisent pas du tout comment je vais dire, ne favorisent pas. Le dessin, on n'arrive plus bien à dessiner la France, on ne sait plus très bien ce que c'est. C'est quoi l'identité française? Peut-on en parler sans tomber dans son portrait oh, très schématique comme ça, j'allais dire des données ethniques, par exemple, l'ethnicité. Vous voyez, c'est ça qui prime maintenant, ou la diversité. Mais quelle diversité? Donc la France est très généreuse. La France douce, la France belle. La France avait naturellement donc ses grands équilibres par sa générosité et sa cohésion, bien sûr, par la même chose. Toutes choses qui ont fini par dissoudre et faire de la France une société complètement disloquée où il n'y a plus de douceur. C'est la guerre larvée entre tous. Peut-être que ce n'est pas seulement la France qui est concernée par ce mouvement, puisque j'ai vu un article, j'ai retrouvé un article, enfin, j'ai lu un article dans un journal de Atlantique, écrit il n'y a pas d'ordre libéral, voilà, par Anne Applebaum. There is no liberal world. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. On pensait qu'on vivait dans un monde libéral. Il dit non, il n'y a pas de monde libéral. Bon, le titre, je ne peux pas l'interpréter, mais je peux dire deux ou trois choses, retenir de ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'en février 1994, c'est comme ça que son article commence, à Hambourg, en Allemagne, le président estonien de l'époque, monsieur, je sais plus son nom, quelque part, il va venir, je crois, en Lénart, avait délivré un grand discours à l'époque, où il faisait un peu l'éloge, il réfléchissait sur la démocratie tout en disant pourquoi eux, ils allaient rejoindre le camp de la démocratie, puisque 3 ans auparavant, ils étaient partis de l'Union civile soviétique. Et dans cet article, ils avaient regagné leur indépendance. Et dans cet article, ils disaient que la liberté de chaque individu, dans cet article, qui répète ce que le Premier ministre disait, Lennart Meri, pas le Premier ministre, le président de l'Estonie en 1994, ce qu'il disait à Hambourg, en Allemagne, que la liberté de chaque individu, c'était au cours d'une soirée, voilà, très belle coquette, entre beau monde, la liberté de chaque individu, la liberté économique de commerce, la liberté, ou plutôt la liberté de commercer, disons comme ça, la liberté de l'esprit, de la culture et de la science sont inséparables et interconnectés en ce qu'ils constituent la base même de ce qu'on peut appeler une démocratie viable. Alors, il rappelait donc, en se joignant au camp de la démocratie, bon, la démocratie adhérait certainement à ces valeurs-là que sont la liberté de la science, de la culture, on aurait pu ajouter celle de la conscience Et disant cela, ce même jour, il avait averti sur le fait qu'il voyait pourtant, il avait une inquiétude parce qu'il voyait pourtant un retour 3 ans après dans les mots, les postures de la nouvelle Russie à ce moment-là, qui voulait redevenir ce qu'elle était avant, sa grandeur et tout. Il avait l'impression, et que l'Europe l'accompagnait dans ce mouvement, il avait l'impression qu'on n'avait pas vraiment. On n'était pas sorti du bush et qu'on pouvait du bosquet, comme on dit, ou du gué, et qu'on pouvait retomber dans cette situation où les hégémonies prennent le pas sur la démocratie, et que c'était un sujet d'inquiétude pour lui. Elle ajoute qu'il avait raison de penser comme ça, parce qu'il y a eu 3 événements qui, à son avis, sont importants. C'est qu'à ce moment-là, dans la foulée, l'Estonie, la Pologne avaient rejoint l'OTAN et personne, ça n'impressionnait personne, tout le monde s'en foutait. Et pourquoi? Parce que pendant les 30 ans qui ont suivi, il y a eu du business entre le commerce, sur le commerce, les compagnies pétrolières et gazières ont fait du business avec les oligarques, c'est son mot, russes, et ils se sont enrichis collectivement en faisant le pari que la façon de commercer allait changer la mentalité, comment on va dire, hégémonique, et que en s'enrichissant des deux côtés, cela favoriserait le libéralisme, et que le capitalisme devrait mener tout le monde étant content, riche et bien à l'aise à la démocratie, et que la démocratie finalement amènerait à la paix. Il n'en a pas été question, puisqu'en 2014, il a fallu que cette histoire de l'Ukraine éclate pour que, enfin, Ukraine 1, avec l'annexion de la Crimée, enfin l'annexion, le passage de la Crimée, le retour de la Crimée à l'URSS, sur la demande des habitants, la Crimée, pour que M. Obama, président à l'époque, voilà, envoie des troupes en Pologne, alors que jusqu'à présent on faisait rien, et que voilà, la frontière commence à s'emballer. Entre-temps, M. George Bush aussi avait placé, il y a eu des escarmouches avec les armes stratégiques placées en Pologne. Elle ajoute que tout ce jeu-là est aussi parti d'un glissement dans tout ce qui avait été décidé en 1939-45, une forme de révolution idéologique qui prônait ce qu'on a appelé le Neuwerk-Gehen. Neuwerk-Gehen, on ne voulait plus voir des génocides, comme il y a eu une volonté ouverte de se débarrasser d'un peuple. Neuwerk-Gehen, pour dire que les grandes nations n'allaient plus manger les petites nations. Neuwerk-Gehen, avait abouti, ce slogan avait abouti au fait que la France, l'Europe en fait s'était réunie, l'Allemagne avait laissé l'idéologie nazie, on prônait la paix, le commerce, la coopération, l'intégration, c'était un nouveau monde. Mais au fur et à mesure, le Neuwerk-Gehen aussi, voyez, à la faveur de ces jeux avec la civilisation, le Neuwerk-Gehen aussi est devenu une coquille vide, un slogan vide, parce que certains excès ont commencé à s'opérer. Dans ces excès, on voit par exemple tout ce qu'il y a dans ce qu'on appelle l'optimisation fiscale, dans ce qu'on appelle l'offshore, revenu, vous avez vu, de l'association des oligarques avec les compagnies pétrolières. C'est pas seulement le seul cas où ça se manifeste. On a vu aussi les grands qui mangent plus les petits, c'est pas vrai, parce que dans cette campagne, par exemple, au fait, a-t-on parlé du cumul des mandats? Lui a-t-on donné sa juste place? On avait dit plus de cumul de mandats. Mais est-ce que cela a vraiment émergé avec toutes les conséquences que l'on sait? En termes justement d'hégémonie, partage de pouvoir et position abusive, etc., etc. Est-ce qu'on a vraiment insister, insister. Bon, je pense que Mélenchon, Monsieur Mélenchon a beaucoup insisté, peut-être Monsieur Zemmour aussi, sur les lois anti-concentration médiatique. Mais est-ce qu'on a vraiment insisté sur même la façon de commercer? Est-ce qu'on a vraiment insisté sur les grands équilibres, grandes écoles, universités? etc., etc. Donc, il y a quand même des zones d'ombre qui sont restées. Et pour finir avec l'article de Madame Applebaum, Anne, elle dit que même la diplomatie est entrée dans une forme de cycle qu'elle appelle un cycle, un pilotage automatique. Voilà, l'essentiel de ce qu'on appelle la diplomatie serait en fait un ensemble de figures imposées, un peu comme si on entrait dans le cadre d'une société de l'automaticité, vous voyez, des automates, où on arrive, on fait un jeu, et ce jeu-là, il se répète à l'infini. Est-ce qu'on a réfléchi sur tout ce qui est noblesse d'État, dont Monsieur Pierre Bourdieu nous a parlé à l'infini, là je reviens sur la campagne, est-ce qu'on a réfléchi sur le mode, le nombre de représentants à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on a vraiment insisté sur le scrutin majoritaire, les proportionnels? Est-ce qu'on a vraiment réfléchi sur les cycles de la reproduction? Est-ce qu'on a réfléchi sur les phénomènes de captation des richesses et du pouvoir? Ben, c'est-à-dire qu'il y avait là, dans ce grand remplacement, quelque chose qui était plus philosophique et idéologique que peuplement, tout simplement. Bon, bien sûr, le peuplement peut accentuer déjà ces effets-là, mais il ne faut pas confondre la cause et l'effet, ou plutôt l'effet, prendre l'effet pour la cause. Comment finir cette émission? Le ministère de la Remigration, le détournement qui va dire peut-être qu'il faut renvoyer les gens chez eux, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais tant qu'on n'a pas réfléchi, enfin si aussi en même temps, on ne fait pas cette grande réflexion qui est essentielle à toute la problématique du grand remplacement, bon, ça sera un peu jugé, ça sera mal jugé, parce que ça fait un peu sec, ça fait un peu sec et ça fait un peu bouc émissaire. C'est toujours cela le problème, comme on a dit tout à l'heure, au sein des grands équilibres, quelle est la place qu'occupe telle ou telle tribu. Bon, on ne va pas aller plus loin. Je vais seulement dire, tout simplement, que c'est dommage qu'on entende moins Madame Pécresse ou ce que dit Madame Hidalgo, mais peut-être c'est pas la peine de les entendre. Moi, je parie qu'elles feront un bon score, hein, parce que ça, c'est des partis établis et leurs militants sont là. Leurs militants sont là. À moins qu'on se dise qu'ils sont tous passés chez le président sortant, je sais pas où ils sont, à moins, sauf à s'abstenir. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Mais terminons quand même par dire ce qui, moi, me passionne ici, c'est que dans la thématique de la pensée, enfin la thématique de la pensée, la thématique du grand remplacement qui arrive au grand déclassement, c'est la même chose et c'est normal pour manque d'envergure. C'est-à-dire que la France s'est affaissée sur elle-même, quelqu'un a dû l'écrire. Moi j'ai envie de dire, et j'ai pensé à Lévi-Strauss qui avait eu un mot très, enfin un titre très. Très, très brutal, mais qui veut dire ce que ça veut dire, c'est que nous devons revenir à une forme de pensée sauvage. C'est-à-dire que c'est l'homme qui reprend les rênes, mais sauvagement, dans ce sens qu'on ne sera pas seulement pris par les savoirs scientifiques, mais aussi par les croyances populaires, c'est ce qu'il dit. On sera même pris par le totémique, bien sûr, mais on doit revenir à cette phase sauvage-là où on se cherche un peu, et en se cherchant, il faut déjà commencer par la recherche la science du concret, qu'il appelle la science du concret de l'autre, mais aussi la science du concret, je ne peux pas appeler ça du vivre ensemble, mais peut-être de ce qu'on appelle la générosité. Et je pense aussi, quand je le dis là, au don de Marcel Mauss. Et là, ce sont des ethnologues, vous voyez, qui vont peut-être plus nous éclairer sur la voie que nous devons choisir. Et probablement aussi, bien sûr, en allant dans une pensée sauvage, il faut y aller avec toute la passion possible, c'est-à-dire tout ce que vous voyez qui relève de la passion, pas qu'arrive, etc. C'est pas, il y a du sacrifice. Dans la passion, il y a du sacrifice, mais il y a de la sauvagerie parce que on y va en croyant de toutes ses forces que ça va marcher, c'est-à-dire que ça doit être positif et surtout honnête. La pensée sauvage. Claude Lévi-Strauss, très intéressant. Pensez-y au moment d'aller voter. Avec votre cœur et avec votre raison, c'est ça la pensée sauvage. Amis des radios silence, vous avez écouté Flash sur le monde par Élise Mbock. Je vous dis bonne votation pour le premier tour.